Vlas Doroshevitch, à Moscou, petite Jean, dans une impasse. Longue vie ! Des notes étranges, invraisemblables, sauvages, semblables à des cris plaintifs, lancés par une voix de basse, résonnaient dans toute l'impasse. Les vitres en tremblaient. Oh, encore le miracle, disaient les gens du quartier. Les fenêtres s'ouvraient. As-tu fini, animal ? Vas-tu te taire, imbécile ? Je vais appeler la police, canaille, suppôt du diable, criait-on des fenêtres. Mais l'animal riait sous cap, saluait, criait plus fort à qui l'insultait davantage. Longue vie ! Les fenêtres se fermaient avec fracas. Mais que diable vient-il faire ici ? Si quelqu'un l'insultait encore, il le regardait insolemment et lui criait d'une voix d'enfer « Éternel souvenir !» Bon, c'était exaspérant. Le nom de cet homme, déjà âgé, d'humeur grondeuse, avec de grands favoris grisonnants, personne ne le savait, bien qu'il vécût dans l'impasse depuis 5 ans. On l'appelait tout simplement le miracle. C'était un miracle qui chantait, faisait vibrer ses octaves, mais s'enivrait perpétuellement et vivait, comme il le disait lui-même, sur le dos des épiciers. On ne pouvait pas dire qu'il fût dépourvu de connaissances ni d'intelligence. Mais sa science et son intelligence n'avaient aucune pratique. Il savait, par exemple, assis sur le pavé, passer ses 2 pieds sur sa tête et rester dans cette position tout le temps qu'il stationnait dans l'impasse pour jouer de l'orgue de Barbarie. Et cela faisait les délices des enfants et des domestiques. Et l'orgue de Barbarie jouait généralement longtemps dans l'impasse. L'orgue de Barbarie était contraint de jouer 2 ou 3 fois tout son répertoire, de jouer 1 demi-heure, car ce n'était que lorsque tout le monde en était importuné que quelqu'un lui jetait 2 copecs. Pourvu seulement que tu t'en ailles ! Aussi, malgré son âge, le miracle savait encore autre chose, marcher sur les mains, les pieds en l'air. En dehors de cela, il ne savait rien. C'était là pour lui une occupation accessoire, comme une sorte de plaisir. Sur le pavé, faire la roue ou marcher sur les mains devant son orgue, c'était pour amuser les enfants. Quelquefois, pourtant, il le faisait pour les grandes personnes. Ainsi, c'était Monsieur l'épicier qu'il abordait pour lui dire un jour debout « Voyons, il traverse donc la rue sur les mains !» Il marmottait. « Ah, excusez, monsieur, c'est indigne d'un vieillard, c'est honteux à voir. »« Alors, voyons, marche. »« Mais c'est bon pour les enfants, pour distraire les bébés. »« Mais c'est bon aussi pour nous. » Il refusait positivement. « Monsieur, tu veux pas, bon, c'est bon, t'auras pas de vodka. »« Farceur. » Alors, il murmurait quelque chose en lui-même, dansait sur les mains, dressait les pieds en l'air et, sur les mains, traversait la rue dans la boue. Sur la chaussée, il glissait, tombait, voulait se redresser, mais messieurs les marchands criaient « Non, sur les mains, sur les mains !» De nouveau, il se remettait sur les mains, de nouveau, il glissait dans la boue et quand il arrivait au trottoir opposé, il était couvert de boue, noir comme le diable. « Bon, allez maintenant, reviens, en arrière !» criaient les spectateurs ravis. « Mais je n'avais pas promis de revenir. Si, si, en arrière, ou t'auras pas de vodka ?» Il marchandait quelque temps, puis marmottait encore dans sa barbe, se mettait en équilibre sur les mains, et le visage bleui, enflé, les joues effleurant la boue, il traversait la chaussée avec soumission. Écarte-toi, salaud, tu sens la boue, disait joyeusement un jeune commis de boutique, tandis que messieurs les marchands riaient à pleine gorge. La principale occupation du miracle était la longue vie. Comme Mazzini, il vivait de sa voix. Quelquefois, le miracle désertait l'impasse à la grande joie de ses habitants. Cela signifiait qu'il était allé au cabaret. Il apparaissait au cabaret, errant entre les tables, se disputant avec les garçons, finalement s'arrêtant à une table où l'on buvait du vodka, et alors il disait humblement incliné « Messieurs les marchands, permettez-moi de vous souhaiter longue vie !» On le chassait d'une table à une autre jusqu'à ce qu'enfin quelqu'un lui dit « Allez, allons, chante !»« Et pour qui me commandez-vous de chanter ?»« Mais chante pour Pierre !» Le miracle toussait énergiquement et d'une voix de tonnerre « Longue vie au marchand Pierre !» Les vitres tremblaient et les consommateurs tressaillaient de frayeur. « Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui est arrivé ?» Les garçons prenaient le miracle par le bras et lui coupaient la dernière syllabe dans la gorge en le poussant dehors. Alors il suppliait au nom du Christ, au nom de Dieu, qu'on lui laissât au moins boire le petit verre de vodka qu'on lui avait promis. « Mais laissez-moi ça, laissez-moi ça !» gémissait-il. « Voilà qu'on va le boire, malédiction, mais laissez-moi ça au moins, je vous dis !» Et, s'inclinant, il se signait. « Mais les jeunes ne crieraient plus, battez-moi si je crie encore, battez-moi !» À la fin, on le laissait faire. Il rentrait dans la salle, doucement, avec précaution. Il buvait le petit verre promis, s'inclinait devant messieurs les marchands et partait. Mais sur le seuil, à la grande joie du public, il lançait encore une fois « Longue vie !» Le garçon le plus voisin sautait sur lui et l'attrapait par l'oreille ou par le cou. Quelquefois aussi le manquait, car le miracle s'entendait étonnamment bien à esquiver les coups. Il allait ensuite à un second cabaret, puis à un troisième, et ainsi toute la journée. Quelquefois, il finissait par se faire conduire au violon. D'autres fois, des consommateurs ivres le battaient indignement. « Mais pourquoi te conduis-tu si mal ?» Alors lui, perdant toute retenue, demandait la police en criant « Allez, faites un procès-verbal !» Et il fallait l'emmener pour éviter un scandale. Mais ces excursions dans les cabarets, au grand déplaisir des gens de l'impasse, il les faisait rarement. Toute l'activité du miracle se dépensait dans l'impasse. Il avait sa principale occupation dans la boutique d'articles collodiaux du Pankratov. Le boutiquier Pankratov, joli homme, trapu et solide, la barbe longue et touffue, vendait secrètement de la vodka. Secrètement, bon, il n'y a plus moyen de rien vendre au grand jour. Toute la journée, il y avait du monde dans sa boutique, buvant vodka dans des tasses à thé. Le secret consistait à boire de la vodka dans une tasse. Dans la petite chambre voisine, le samovar luisait toute la journée, mais froid, plein de vodka. La théière seule épandait un parfum balsamique, on eût dit du thé. Les gens entraient, se signaient. « Bonjour, Pancras. Messieurs, je vous salue. »« Que désirez-vous ? » demandait d'un ton carré le boutiquier trapu. « Boire une tasse, n'est-ce pas ?» soupira le client en posant sa pièce sur le comptoir. « Hé, gamin, va tirer au robinet !» ordonnait carrément le boutiquier en retirant l'argent. « Ne voulez-vous plus fort ou plus clair ?» demandait d'un air étonnamment gai le gamin du boutiquier à la mine éveillée et délurée. Cela lui plaisait extraordinairement au gamin, cette vente illicite de la vodka. Il s'imaginait être lui-même le patron et vendre pour son compte la vodka du samovar. Bon, il est plus fort maintenant, qui en veut ? Le gamin savait verser davantage si on disait plus fort et moins si on disait plus léger. Du liquide parfumé de la théière. Il la remplissait au samovar et apportait la vodka au client dans une tasse sur une soucoupe comme du thé. Allez, buvez à votre aise. Il y avait toute la journée dans la boutique, assise parmi les acheteurs pour attirer le client, la jolie boutiquière, en rose, engageante, appétissante, en robe d'étoffe claire avec des garnitures, des fleurs, des bouquets. Un châle sur les épaules, un mouchoir de soie fleuri sur la tête, des boucles d'oreilles en or, des bottines neuves, craquantes, munies de fers à cheval en cuivre battu. C'était la Carmen de l'impasse. Le soir, quand il allait fermer, le boutiquier appliquait régulièrement une bonne tape sur le dos de la boutiquière, de l'air de lui dire « Peut-il possible que tu sois une femme mariée pour faire de l'œil toute la journée à des étrangers ?» La boutiquière poussait un cri voulu qu'on entendait dans tout le quartier. Et le matin, parée à neuf, elle s'installait dans la boutique et recommençait pour toute la journée à faire de l'œil aux étrangers. Si elle s'endormait ou si elle s'attardait à prendre du thé, son mari ouvrait la porte de la boutique donnant sur sa chambre et lui criait « Akulina, qu'est-ce que tu fais? Il y a du monde !» Le principal client le plus notable était le cocher Vlassov, un homme chauve, l'air d'un carnassier portant aux oreilles des anneaux d'argent. Il n'y avait pas bien longtemps qu'il était simple cocher avec deux chevaux, mais il avait vite monté et maintenant il avait dans l'impasse une cour immense avec 90 stalles d'écurie, près de 100 chevaux et 40 hommes. Sa femme, laide, éthique, phtisique, une chatte affamée, priait toute la journée. Le soir, quand son mari rentrait ivre, elle courait se cacher au galetas, à la cave, au grenier ou à l'écurie, et restait là toute tremblante pour ne pas être battue. Et toute la journée, elle priait, répétait le même air aux voyageurs et aux voyageuses. « Dieu veuille que mon mari ne m'étrangle pas !» Le cocher Vlassov avait un sentiment pour la belle boutiquière rousse. Ses affaires, au vu de tous, marchaient de mieux en mieux, mais il tenait son capital invisible, tandis qu'il restait assis toute la journée dans la boutique à boire du thé. De sa place d'honneur à côté du comptoir, il dévorait des yeux la boutiquière, lui racontait constamment quelques mensonges auxquels elle répondait en rougissant. « Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Mais quelles inventions faites-vous ? » Et ainsi, les jours se suivaient, toujours les mêmes. « Un homme ensorcelé !» disait-on de Vlassov dans l'impasse, de l'air de le plaindre. Le soir, c'était Vlassov qui faisait le principal grief du boutiquier contre sa femme. « Il paraît qu'il en tient pour toi à la vie et à la mort, ton Vlassov, » disait-il en la calotant. « Vous allez vous fiancer pour avoir le même tombeau ?» Si Vlassov, pour une raison quelconque, ne venait pas, le boutiquier fronçait les sourcils. « Et quoi donc Vlassov pour ne pas venir? Allez, envoie-lui le gamin, toi !» Le miracle se tenait ordinairement vers la porte. On ne l'admettait pas dans la boutique pour ne pas froisser les clients. Un des battants de la porte était toujours ouvert pour l'aérage. Le miracle regardait par cette ouverture, humblement incliné, s'efforçant de produire sur son visage enflé et misérable un sourire aimable. Il demandait « Vous permettez ?» Il appelait en général à Vlassov son bienfaiteur. Et Vlassov, de même, lui répondait en l'appelant son fils. « À qui la bonne nouvelle ?» criait le miracle en se redressant. « À la bonne Akoulina ! À la boyarine Akoulina ! Allons !»« Oh, vous avez des intentions ! Quelle fantaisie !» disait en rougissant et baissant les yeux la boutiquière flattée. « Oh, pourvu qu'il broye, ça ne fait rien !» Et le miracle criait d'une voix sauvage et tonitruante qu'on entendait dans toute l'impasse. « À la boyarine Akoulina ! Longue vie !» Vlassov faisait de l'œil un signe au gamin de la boutique pour servir le braillard. Ce gamin versait toujours son thé au miracle avec une expression de figure particulière, méprisante. Il le servait sans hâte, lentement, comme à regret, comptant toujours comme de son devoir de l'insulter. « Bois donc, espèce de braillard !» Il le servait toujours faible, la tasse non pleine, et tandis que le miracle dégustait lentement sa petite tasse, il semblait lui reprocher de la retenir un peu plus qu'il ne fallait devant sa bouche. Ensuite, il ne manquait jamais d'examiner le fond de la tasse. Oh, il a tout lapé, plus une goutte. Il secouait la tasse d'un air dégoûté, comme s'il l'avait enlevée à un chien. Ce gamin s'amusait énormément de tout ce qui se passait dans la boutique. De l'air sérieux dont le patron ramassait l'argent, de l'air non moins grave dont il se signait quand sonnaient les vêpres, de la manière dont le patron roulait Vlassov et de celle dont Vlassov sifflait le thé et s'enivrait. Il s'en léchait les lèvres, il pensait « voilà comment je ferais, moi aussi, quand je serai grand. » Devant tous les clients de la boutique, le gamin méprisait donc ouvertement le miracle et il s'efforçait de le lui manifester davantage que les autres. Le miracle, de son côté, ne supportait personne avec autant de patience que le gamin. Quand il jetait quelque chose hors de la boutique, quand il allait vider la chaudière ou verser le reste du kvass à un sou, ou tout simplement verser de l'eau sale, le gamin s'arrangeait toujours de façon à tomber sur le miracle et à l'insulter. « Écarte-toi, dis mal, toujours sur la porte !» Cela lui procurait un vrai plaisir. Mais la grande fête, le vrai gala pour le gamin, c'était de pouvoir jouer un tour au miracle. Il ne pouvait plus tenir sur ses jambes tant il était transporté. Jouer un tour au miracle, mais c'était toujours la même chose. C'est le matin, les cochers sont partis pour leur travail, et Vlassov, injuriant sa femme, « La peste t'étouffe, vieille pomme sèche !» Vlassov sort de chez lui, se signe devant les quatre coins de l'horizon et se dirige vers la boutique de Pankratov. À la porte, depuis longtemps déjà, le miracle attend tout tremblant. Il se contracte, se ratatine. La fièvre le tient, ses dents ne peuvent se rejoindre. La toux le déchire, il est en proie à un catarrhe qui le secoue tout entier. Il salue et, pour attirer sur lui l'attention, il salue jusqu'à terre. Mais à la boutique, personne ne fait semblant de le voir. Il fait un signe au gamin. « Pousse-les un peu, dis un mot pour moi, Hérode, parle de moi. » Mais le gamin, considérant toute cette comédie d'un regard plein d'une satisfaction sans mélange, fait semblant de ne rien voir. Même il s'avance exprès, jusque sur la porte, il regarde comme s'il n'y avait personne dans la rue. Cependant, il ne sourit pas, voyant comme le vieux a l'air de souffrir. Ah, le miracle souffre de plus en plus. Je meurs, gémit-il, torturé par un accès de toux prolongé. Oh, il ne se retenait plus, il arrivait à une telle audace qu'il montait à la porte, il criait, il réclamait directement, il ne suppliait plus. Mais commandez-moi donc de chanter, commandez, je vous dis, démon. Mais le gamin l'arrêtait en route, en lui frappant du poing sur le ventre. Où vas-tu, animal ? Hélas, mon Dieu ! Gémissait le miracle. Et il criait : Mais commandez donc ! Je vais casser les vitres si vous ne commandez pas tout de suite. À la fin, Volassov, qui cause avec la boutiquière, remarque le miracle : Entre, vas-y ! Le miracle se ranime. Pour qui voulez-vous ? Elle écrit pour moi. Ô marchand rapissime, longue vie ! Au matin, la voix du miracle était rauque comme celle d'un vieux coq. Elle tremblait, elle était toute cassée. Il pouvait à peine finir vie. Vlassov clignait de l'œil à la boutiquière et au gamin. Celui-ci savait son affaire. La terre lui brûlait sous les pieds, mais il allait, comme toujours, lentement, comme à regret, vers la petite chambre. Lentement, il en sortait et venait servir le miracle. Le miracle, les mains tremblantes, prenait la petite tasse, la portait doucement à sa bouche, et dans ses yeux, on devinait la crainte, le désir. Est-ce qu'il allait bientôt boire ? Il se versait lentement entre les dents, penchant la tête de plus en plus, la tasse sous la bouche. Et dans ce mouvement, tout à coup sa peau se figeait. Ses yeux lui sortaient de la tête énorme. Le gamin se jetait la tête la première hors de la boutique, faisant claquer la porte. Tous au dehors venaient coller leur nez contre les vitres comme des museaux de petits cochons pour voir ce qui se passait. Le miracle, au lieu de vodka, buvait de l'eau. Sur le coup, il restait d'abord sans mouvement, les yeux écarquillés étrangement, comme s'il n'y pouvait rien comprendre, pas même un endroit où il se trouvait. Et soudain, il était pris d'une toux étrange. Le miracle avait des nausées, il prenait des convulsions, il tombait sur les genoux comme dans une attaque, il tressautait, il retombait encore, il se tordait à terre comme un oiseau blessé, il se prenait la tête, arrachait ses cheveux gris, tout sales. Tantôt il trépignait des deux pieds à la même place, tantôt il les jetait de côté et d'autre. Il était comme empoisonné. Son visage bleuissait, ses yeux s'injectaient de sang, ses prunelles étaient distendues. Il était effrayant à voir dans ces moments-là. Il avait l'air d'un aliéné. Dans la boutique, on mourait de rire à voir ses pirouettes. Et surtout, plus fort que tous, le gamin riait. Il en poussait des cris plaintifs, il se tenait le ventre. À la fin, le miracle cessait ses mouvements. Il apercevait sur la vitre sale des visages qui riaient, et avec rage, comme un insensé, il se jetait sur la porte vitrée en poussant des cris. Mais le gamin s'arrangeait pour ouvrir la porte sous son nez. Le miracle perdait pied et s'allongeait à plat. Vlassov et le boutiquier le ramassaient et le jetaient dehors. En sortant de leur rude étreinte, ils roulaient au milieu du pavé, restaient d'abord sans mouvement, se relevaient ensuite de la poussière ou de la boue, quelquefois ensanglantés, stupides et mauvais comme un bœuf à demi abattu. Ils regardaient la porte de la boutique, ce qui le ramenait un peu à lui-même. Ils se levaient alors, allaient au trottoir opposé, et debout, se bouchant une oreille contre le déchirement de sa propre voix, il criait d'un air bien heureux dans tout le cul-de-sac « Au cocher indissime, éternel souvenir, éternel souvenir !» Et il répétait d'une voix sauvage, furieuse, « Éternel souvenir !» jusqu'à ce que le gamin sorte de la boutique pour lui apporter une nouvelle tasse. « Mais qu'est-ce qu'il y a, imbécile, tête à langue ?» Le miracle s'approchait lentement, l'air méfiant. « Oui, prends, démon, il y a de quoi !» Le miracle prenait, flairait doucement, tremblant de tout son corps, aspirait la vodka entre ses dents et gardait longuement la tasse sous sa bouche entr'ouverte. Il bégayait, babotait, agitait la tête avec un sourire. « Farceur !» Son visage prenait peu à peu une expression humaine. Tout le monde riait, il se mettait à rire avec les autres. Le gamin roux était heureux d'une joie supérieure à tout. Il ne faisait que branler la tête en disant avec un ton de mépris surhumain « Oh non, quel crétin !» Cette plaisanterie se renouvelait assez souvent. Elle était toujours accompagnée des convulsions du miracle et finissait dans la joie générale. Le miracle, à la fin des fins, éclatait de rire, tombait aux pieds de Glassoff, demandait pardon et pour qu'on lui donne du vodka, criait de toutes ses forces « À la boyarina Kulina, longue vie !» Elle portait cette voix tonitruante avec laquelle il brisait les vitres dans tout le cul-de-sac. On l'entendait de partout. Elle volait jusque dans l'étage souterrain de la maison Spitzfeldt, où dès l'aurore était assise à sa couture la femme du miracle, Olympe Ivanovna. Elle était mariée depuis 20 ans, Olympe Ivanovna. Et pourtant, chaque fois qu'arrivait jusqu'à elle, à travers la rue, ce cri « Longue vie !» Elle frissonnait, elle se contractait. Il semblait que sa taille diminuât comme si on la battait, comme si on la mettait à la torture. Ses mains tremblaient, ses doigts ne pouvaient plus tenir l'aiguille. Chaque fois, son visage s'inondait de larmes, elle ne pouvait plus respirer.